Tu sais, Franz, m'a-t-elle dit au moment où nous longions les files de calèche au bord de la place Saint-Stéphane. Il y a quelque chose de très intéressant chez ceux qui pensent que Vienne est la porte de l'Orient. Ce qui m'a fait rire à mon tour. Non, non, ne rigole pas. Je pense que je vais écrire là-dessus, sur les représentations de Vienne en Porta Orientis. Les chevaux avaient les naseaux fumants de froid, et déféquaient tranquillement dans des sacs de cuir accrochés sous leur queue pour ne pas souiller les très nobles pavés viennois. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas, j'ai répondu. La formule de Hofmannsthal, Vienne, porte de l'Orient, me paraît très idéologique, liée au désir de Hofmannsthal quant à la place de l'Empire en Europe. La phrase est de 1917. Bien sûr, il y a des Tchevapchichi et du Paprika, mais à part ça, c'est plus la ville de Schubert, de Richard Strauss, de Schoenberg. Rien de très oriental là-dedans, d'après moi. Et même dans la représentation, dans l'imagerie viennoise, à part le croissant, j'avais du mal à entrevoir quoi que ce soit qui évoque un tant soit peu l'Orient. C'est un cliché. Je lui avais asséné mon mépris pour cette idée si rebattue qu'elle n'avait plus aucun sens. Ce n'est pas parce qu'on a eu deux fois les Ottomans à ses portes qu'on en devient précisément la porte de l'Orient. La question n'est pas là. La question n'est pas dans la réalité de cette idée. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment tant de voyageurs ont vu en Vienne et en Budapest les premières villes orientales. Et ce que cela peut nous apprendre sur le sens qu'ils donnent à ce mot. Et si Vienne est la porte de l'Orient, vers quel Orient ouvre-t-elle? Sa quête du sens de l'Orient. Interminable, infini. J'avoue avoir douté de mes certitudes, réfléchi à mon tour, et en y repensant maintenant, en éteignant la lumière, il y avait peut-être dans le cosmopolitisme de la Vienne impériale quelque chose d'Istanbul, quelque chose de l'Österreich, de l'Empire de l'Est, mais qui me paraissait loin, très loin aujourd'hui. Vienne n'est plus la capitale des Balkans depuis longtemps, et les Ottomans n'existent plus. L'empire des Habsbourg, c'est certes l'empire du milieu, et avec le calme de la respiration qui précède l'endormissement, en écoutant les voitures glisser sur la chaussée humide, l'oreiller encore délicieusement frais contre ma joue, l'ombre du battement du zarbe toujours dans l'oreille, il faut que je convienne que Sarah connaît sans doute mieux Vienne que moi. Plus profondément, sans s'arrêter à Schubert ou Mahler, comme souvent les étrangers connaissent mieux une ville que leurs habitants, perdus dans la routine. Elle m'avait traîné, il y a longtemps, avant notre départ à Téhéran, après mon installation ici, elle m'avait traîné au Joséphinum, l'ancien hôpital militaire où se trouve un musée des plus atroces. L'exposition des modèles anatomiques de la fin du XVIIIe siècle, conçus pour l'édification des chirurgiens de l'armée et leur apprentissage, sans dépendre des cadavres ni de leurs odeurs. Des figures en cire, commandées à Florence, dans un des plus grands ateliers de sculpture. Parmi les modèles exposés dans des vitrines de bois précieux se trouvait, sur un coussin rose pâli par le temps, une jeune femme blonde aux traits fins. Allongée, le visage tourné sur le côté, la nuque un peu fléchie, les cheveux détachés, un diadème d'or au front, les lèvres légèrement entr'ouvertes, deux rangs de belles perles autour du cou, un genou à demi plié, les yeux ouverts dans une pose plutôt inexpressive, mais qui, si on l'observait assez longtemps, suggérait l'abandon, ou du moins la passivité. Entièrement nue, le pubis plus foncé que la chevelure et légèrement rebondi, elle était d'une grande beauté. Ouverte tel un livre depuis la poitrine jusqu'au vagin, on pouvait voir son cœur, ses poumons, son foie, ses intestins, son utérus, ses veines, comme si elle avait été soigneusement